Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Et nous avons décidé de nous faire plaisir, d'écouter de l'opéra, de parler de l'opéra, puisque cette année, l'Opéra National de Paris célèbre un double anniversaire. Ses 350 années d'existence et les 30 ans de l'Opéra Bastille. Quelles sont les nouvelles voies de l'art lyrique? Comment l'opéra peut-il s'inscrire dans la modernité? Bonjour Stéphane Lissner.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'Opéra National de Paris. Je vous ai invité pour parler de l'opéra, pour ceux qui adorent l'opéra et pour ceux qui n'ont pas encore eu la chance d'y venir, d'assister à un opéra. Démocratiser l'opéra, j'imagine que c'est une tâche quotidienne pour vous. Quelles sont les mesures qui ont été prises pour permettre justement au plus grand nombre de venir assister à ces spectacles?
Je dirais qu'il y a deux axes principaux. Le premier axe, c'est évidemment la programmation, c'est-à-dire quel répertoire et quels artistes pour défendre ce répertoire. Sans opposer les metteurs en scène de pensée aux metteurs en scène d'image. Quels sont les metteurs en scène de pensée, oui, c'est-à-dire des metteurs en scène qui ont une pensée dramaturgique, qui réfléchissent à travers le livret, à travers le sujet, et qui cherchent de relier, au fond, l'œuvre, peut-être de la relier à notre actualité, au monde dans lequel nous sommes. Et puis, opposé à cela, il y a plutôt des metteurs en scène que j'appelle les metteurs en scène d'image, où l'esthétique prime et où peut-être la pensée, le fond est un peu plus léger.
Alors, voilà. Les premiers sont plus difficilement accessibles que les seconds.
Oui, ils sont plus difficilement accessibles, mais ils sont essentiels parce qu'ils font de l'opéra un lieu de débat, un lieu vivant, et surtout, ce sont les seuls qui ont une vraie capacité d'attirer le jeune public. Et c'est ça, évidemment, qui est le plus important. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est évidemment, d'un point de vue concret, faire des propositions de manière à ce qu'aujourd'hui, sur le million de spectateurs que nous accueillons un peu plus de 950 000 spectateurs, eh bien, il y ait aujourd'hui plus de 40% de jeunes qui soient dans le théâtre.
Alors, pour découvrir l'opéra, on a un extrait d'une visite. Elle est menée par une grande chanteuse, actrice également, Judith Chemla.
Votre attention, s'il vous plaît, à tous les figurants de l'acteur.
Attends, on est où, là ?
Répétition, merci.
Acteur ? Ça va, on a largement le temps.
Tu dis, pareil qu'il y a un lac sous l'opéra. Tu savais ?
Non.
Vas-y, tu veux pas qu'on essaye de le trouver ?
Bah, t'es sûr qu'on a le droit ?
Je sais pas, on s'en fout. Viens, c'est marrant. Elle est quand même un peu salope, Isoute, non ?
Ah, tu trouves ? Moi, j'ai parlé avec elle, elle a l'air plutôt sympa. Enfin, je veux dire, elle est simple.
Je te parle de la vraie Iseute, pas de la chanteuse.
Ah, pardon.
La meuf, quand même, elle se tape le mec qui a buté son ex, tout sous drogue.
Mais c'est pas de la drogue. C'est un filtre d'amour.
Non, mais c'est pareil.
Bah, quand même pas, non. Faut plutôt voir ça comme un serment. Moi, je trouve ça beau. C'est la passion amoureuse.
Non, c'est pas ça, l'amour.
Ah bon, mais alors c'est quoi?
J'en sais rien, mais c'est pas ça, en tout cas, là, c'est... Je sais pas, c'est morbide, quoi. Puis tout le monde crève à la fin, de toute façon.
Mais tu sais, l'amour, c'est pas une assurance vie. Hein.
Oui, mais c'est pas non plus un suicide collectif. Là, ça manque quand même un peu de joie, cette histoire.
Ouais, je sais pas, ça, peut-être.
C'est un extrait de la troisième scène. On entend Judith Chemla, c'est assez drôle. Stéphane Lissner, présentez-nous ce que l'on vient d'entendre.
Alors, quand je suis arrivé... On parle justement de démocratiser, d'essayer de s'ouvrir au plus grand nombre. J'ai créé une plateforme digitale qui s'appelle la troisième scène, par rapport bien sûr à l'Opéra Garnier et à l'Opéra Bastille. Cette plateforme digitale, elle a comme objectif d'inviter des artistes qui n'ont pas a priori vocation à travailler à l'opéra pour rencontrer des spectateurs, qui n'ont pas non plus vocation...
Des néophytes, parfois.
Exactement, aller à l'opéra. Et donc, s'adresser à une population jeune qui, à travers ces films de la troisième scène, découvre l'architecture, la peinture, la littérature, la musique, autour, bien sûr, des lieux que nous avons, et avec souvent les artistes qui travaillent avec nous. Cette troisième scène aujourd'hui a remporté un succès vraiment important. On a dépassé les 4 millions de vues. On a plus de 60 films au catalogue aujourd'hui qu'on peut consulter. Ce qui est évidemment essentiel, c'est que c'est gratuit et que c'est accessible à tout le monde. Il suffit d'aller sur le site opéra-de-paris.fr. Et cette rencontre entre ces artistes et ce public, c'est pour moi essentiel. C'est pour moi essentiel et ça fait partie un peu de l'image que nous avions d'une certaine manière d'un opéra qui serait un peu refermé, retranché sur lui-même. Non, l'Opéra de Paris, vous le verrez, on en parlera sûrement à travers les 350 ans, s'ouvre aux grandes institutions, il s'ouvre à différents artistes et il doit s'ouvrir aussi à un public aujourd'hui qui s'intéresse à l'art, mais peut-être pas spécifiquement à l'art lyrique.
Et oui, parce que peu de nos compatriotes aujourd'hui vont à l'opéra. On considère qu'il y a 4% des Français qui assistent à l'opéra. Alors justement, si parmi ces 96% qui n'y vont pas, ou parmi ces 4% ceux qui ne sont pas encore très familiers avec l'opéra, qu'est-ce qu'il y a à voir sur cette troisième scène? Qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller pour découvrir l'opéra, Stéphane Misner?
Bah, écoutez, la troisième scène, il y a je vous ai dit plus de 60 films, c'est-à-dire 60 artistes qui ont été invités. Il y a un magnifique film, par exemple, de Claude Lévesque, Le Lac Perdu. Là, on vient de parler de ce film avec Chemla. Je dis Chemla. On a des films d'animation. On a Alexander Steiger, on a Amalric, on a plein d'artistes, Fanny Ardant, plein d'artistes qui ont créé des films qui durent entre 4-5 minutes jusqu'à à peu près 20 minutes. Et ce sont des films qui souvent, encore une fois, prennent appui sur l'architecture, sur les lieux, mais vont aussi au-delà de cela. Et encore une fois, ce qui est fascinant, c'est que ces artistes-là touchent à l'opéra, connaissent l'opéra, mais n'ont pas l'idée qu'ils vont travailler à l'opéra. Et c'est comme ça que, grâce au film de Clément Cogitor, que nous avons appelé pour la troisième scène pour faire un film sur les Indes galantes, eh bien, à travers ce petit film de 5 minutes qui remporte un succès énorme sur le site, eh bien, j'ai rencontré Clément Cogitor, nous avons discuté de son film et finalement, il fera une mise en scène des Indes galantes à l'Opéra Bastille en 2019. Donc, c'est ça, l'Opéra Bastille, c'est aussi de s'adresser à un public, mais de chercher aussi des artistes qui peuvent être parfois des plasticiens, qui peuvent être encore une fois des philosophes, des photographes, etc.
Bah tiens, on va écouter d'ailleurs un extrait des Indes galantes. Les Indes galantes de Rameau, alors ça c'est le 18e siècle triomphant, c'est souvent l'exemple même de l'opéra à ballet, Stéphane Misner.
Oui, alors c'est une œuvre phare du monde baroque qui au fond a été redécouvert au 20e siècle. Il a d'ailleurs fait les beaux soirs de l'Opéra de Paris, il a été donné très souvent. C'est une œuvre avec quatre entrées, c'est une œuvre très spectaculaire. C'est une œuvre au fond qui parle aussi de l'Europe et qui parle aussi de tout ce qui est extra-européen. C'est un sujet au fond, si je puis dire, qui nous touche aujourd'hui, d'autant plus qu'il s'adresse il parle au fond de beaucoup de choses que nous vivons. Et évidemment, je pense aux migrants, mais je pense à la circulation des êtres à travers l'Europe, à travers le monde. Et c'est un opéra ballet de Rameau qui est en même temps, d'un humanisme ambigu. et Clément Cogitor, à travers sa vision aujourd'hui du monde, je parlais tout à l'heure de ces metteurs en scène, qui au fond portent en eux certaines œuvres, parce que ces œuvres les touchent et au regard de ce qu'ils ressentent aujourd'hui dans le monde dans lequel ils sont. Et pour Clément Cogitor, à travers par exemple la danse, puisqu'il y a, je le disais, c'est un opéra ballet, ça lui permet aussi d'inviter des communautés comme le Crump, dont c'est d'ailleurs le sujet du film qu'il a réalisé, des communautés, des compagnies de danse de pays très différents, et qui portent en eux chacune de ces compagnies porte en elle leur propre culture. Et cet opéra ballet permet cela. Permet. Au fond, c'est peut-être le grand premier ballet européen, d'une certaine manière.
Et alors, donc là, il faut toute la puissance, tous les moyens de l'opéra de Paris pour parvenir à prendre cette œuvre qui est un grand classique du répertoire. Il y a eu une multitude de mises en scène, Stéphane Nistler, et de réussir à la moderniser sans évidemment la trahir.
À travers ces quatre entrées, c'est-à-dire les Turcs, les Incas, les Persans, les Sauvages, on voit bien à travers ces quatre entrées ça permet aux metteurs en scène, bien évidemment, de raconter au fond également notre monde et la violence et le populisme et tout ce que nous traversons aujourd'hui. Donc c'est ça l'intérêt aussi de l'opéra. C'est d'être capable de présenter des œuvres et d'avoir des artistes qui posent les débats, qui n'ont pas peur au fond d'affronter ces débats et qui, sans provocation aucune, cherchent au contraire à nous entraîner dans la réflexion.
On va voir justement comment on monte un opéra et comment se déroule une répétition avec le directeur musical de l'Opéra de Paris, Philippe Jordan.
Reprenons la même chose, s'il vous plaît, dans le silence et dans l'intimité à l'extrême. 136 encore. Moi, osez-le. Beaucoup. Un peu plus lent maintenant. Poco ponticello, pas trop de ponticello.
Voilà, c'est ça.
Sinon, c'est trop de basse. Regarde, trop de violoncelle encore. Reprends le tempo. Plus court, taille, plus dansant.
Voilà.
Variation. Trop de râteau. Écoutez le corps.
Note de la 9e symphonie de Mahler dans cette répétition. Bon, on imagine que c'est un travail intense, une telle répétition, et on se dit bien souvent que ces spectacles, alors on a évoqué les Troyens, parce que les Troyens ont été joués à l'inauguration, ils vont être joués donc le 22 janvier prochain, cet opéra de Berlioz, c'est un opéra particulièrement majestueux, il est quasiment 4 heures, je crois que c'est en 5 actes, Stéphane Nistler, et justement, on se dit qu'on aimerait bien les voir plus longtemps, qu'on aimerait les voir tourner. Pourquoi y a-t-il tant de difficultés à monter des spectacles qui durent, à les faire tourner? Qu'est-ce qui va se passer pour les Troyens, par exemple?
D'abord, il faut dire qu'on vient d'entendre Philippe Jordan, qui est notre directeur musical et directeur musical de l'Opéra de Paris, qui d'ailleurs dirigera les Troyens, et que ce film, l'extrait qu'on a entendu, c'est un film de Jean-Stéphane Bron, qui avait réalisé un film qui s'appelle L'Opéra, et qu'il a tourné pendant 2 ans à l'Opéra de Paris, et qui a réalisé ce film autour d'une répétition exceptionnelle. Et c'est vraiment un très beau moment où on entend et on voit Philippe Jordan diriger l'orchestre à travers cette 9e symphonie.
Donc alors, tout le monde peut le voir.
Tout le monde peut le voir également sur le site. Alors, pourquoi c'est difficile? C'est difficile parce que l'opéra réunit énormément de protagonistes. Contrairement au théâtre, où il y a des acteurs simplement sur la scène, nous, nous avons un orchestre, nous avons des chœurs et nous avons des solistes. Et l'espace même de la Bastille crée une situation qui oblige un petit peu à l'exceptionnel, à l'extraordinaire, ne serait-ce qu'à cause de l'espace. Il est évident que cet espace, il faut le remplir. Et donc, c'est surtout avec des grandes œuvres du 19e siècle que nous pouvons donner à Bastille. Mais vous ne pouvez pas
parce
donner...
Parce que c'est une scène énorme, Bastille. Oui. Pour ceux qui ne l'ont jamais vue,
oui,
Stéphane Lisner.
C'est la plus grande scène actuellement, on peut dire, d'un point de vue technologique. C'est sûrement la scène au monde la plus performante aujourd'hui.
Pourquoi?
Parce qu'elle nous permet en moyenne de jouer 3 spectacles minimum en alternance, mm-hmm, et souvent d'avoir en tout 5 spectacles qui travaillent en même temps avec les répétitions, et qu'elle nous permet à donner beaucoup plus de représentations en alternance. Donc c'est une technologie qui a été faite, enfin un théâtre qui a été construit il y a une trentaine d'années, comme vous le savez, et qui permet effectivement aux filles, aux scénographes, aux décorateurs des projets très ambitieux. Alors pourquoi c'est difficile ? C'est difficile parce que vous avez en moyenne 250 à 300 personnes sur un spectacle. C'est difficile parce que ça demande énormément de répétitions, de temps de travail, ça coûte évidemment de l'argent, c'est clair, et les œuvres comme Les Troyens, qui est une œuvre extraordinaire, il faut penser que Berlioz vient de subir les échecs de La Damnation de Faust, de Benvenuto Cellini, etc., et que tout d'un coup il se lance dans cet énorme projet des Troyens qui va devenir, je pense, un des opéras phares de mm-hmm. l'histoire de l'opéra mm-hmm. français, en tout cas.
Bien sûr.
Et qui va voilà, alors c'est un opéra d'aventure, je peux dire, pour le public, hein, qui dure à peu près 5 heures, qui commencera d'ailleurs à 18h. Et cet opéra nous entraîne évidemment dans la plaine de Troie, et puis ensuite à Carthage. Il y a énormément de protagonistes, de personnages. C'est spectaculaire. Et je crois aussi que nous avons besoin de cela. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est comment on monte les Troyens. Qu'est-ce qu'on raconte aujourd'hui avec les Troyens? Est-ce qu'on raconte l'histoire du livret telle qu'elle est là? Ou est-ce que peut-être on appelle un metteur en scène, que je considère comme un des meilleurs actuellement, Dimitri Tcherniakov, qui va lui transposer d'une certaine manière et imaginer qu'est-ce que raconte aujourd'hui ce livret.
Et alors,
qu'est-ce
qu'il nous raconte? Il raconte quoi, Stéphane?
Ben, il raconte, il ne racontera pas les Troyens au premier degré. Il va transposer cela dans le monde d'aujourd'hui. Qu'est-ce que peuvent ressentir des êtres humains qui ont participé à une guerre aujourd'hui? Dans quel état sont-ils? Est-ce que simplement ils sont assis autour d'un petit feu, épuisés, en train d'écouter leur reine? Ou au contraire, est-ce qu'on se retrouve dans un monde peut-être un peu post-traumatique, de gens qui ont été blessés à la guerre, etc.? On peut raconter les choses d'une façon très différente, mais souvent, on a un public assez conservateur qui lutte justement contre ces interprétations.
Et ben justement, on reparlera de ces différentes interprétations, des différentes querelles, polémiques qu'il y a, qui sont consubstantielles à l'histoire de l'art et de l'opéra. On reparlera d'opéra dans quelques instants. Stéphane Lisner, vous êtes directeur de l'Opéra National de Paris. L'Opéra National de Paris célèbre un double anniversaire, 350 années d'existence, 30 années de l'Opéra Bastille. Pour évoquer la situation, l'actualité de l'Opéra National de Paris, son directeur et en notre compagnie, Stéphane Lisner. Stéphane Lisner, on vient d'entendre le billet politique consacré aux Gilets jaunes. À l'heure des Gilets jaunes, à l'heure où il est question d'une France scindée en deux, comment vous, le directeur de l'Opéra de Paris, vous vivez cette situation? Avez-vous l'impression qu'on a laissé une partie de la France éloigné de la culture, de la culture classique ou de la culture traditionnelle?
Ben, c'est difficile de répondre directement à cette question parce que il y a un paradoxe évident. Depuis Malraux, la France a mis énormément de moyens dans la culture. On se souvient bien évidemment des années Mitterrand-Lange, où à partir des années 80, on a doublé le budget de la culture, et donc on a cherché, et pas seulement à Paris, mais aussi en région, on a cherché à travers la construction de musées, de théâtres, de soutien culturel, on a cherché à ouvrir ces abris culturels au plus grand nombre. Donc il y a un paradoxe. Et en même temps, évidemment, la situation économique d'une grande partie de la population empêche beaucoup d'entre eux de pouvoir accéder à la culture, souvent pour des raisons de prix, de place, ou même pour des raisons géographiques, car parfois il faut faire plusieurs kilomètres pour aller dans un cinéma ou pour aller dans un théâtre. Donc il y a un effort de l'État d'un côté et des grandes difficultés de l'autre.
L'opéra, c'est très cher.
Alors, l'opéra, c'est très cher, mais je voudrais juste, bien sûr que l'opéra, c'est très cher. Et donc, ne voyez pas maintenant dans ma réponse un déni. Mais simplement, je voudrais simplement rappeler que nous accueillons 900 000 spectateurs par an et que nous avons aujourd'hui plus de 95 000 jeunes de moins de 28 ans, qui a été rappelé d'ailleurs par la journaliste à l'instant.
Clara de Coquerel.
Clara, oui, qui vient de rappeler ce chiffre. Et nous vendons actuellement 320 000 places à 50 euros ou moins sur 900 000. Donc aujourd'hui, vous avez en tout 43% des places qui sont à moins de 70 euros. Donc, c'est toujours trop cher. Mais si vous comparez à un concert, à un match de football et à beaucoup d'activités où des gens de nombreux peuvent accéder, ça sera toujours trop cher, c'est vrai. Mais on parle toujours des places les plus chères. Il faut aussi regarder ces 45% de places qui sont à 70 euros et moins. Voilà, mais il faut faire encore tout un travail. Mais nous avons pour ça, nous, mis en place énormément d'activités. Par exemple, on a une chose qui est très belle qui s'appelle « Ma première fois », qui est réservée à 2000 familles, eh bien la place vaut 25 euros pour l'adulte, 10 euros pour l'enfant, et enfin pour le jeune, et ce sont des gens qui n'ont jamais eu accès à l'opéra, qui ont d'abord une conférence sur le spectacle, qui ensuite vont assister au spectacle, après ils rencontrent les artistes, et on essaye comme ça aussi de favoriser un certain nombre de gens qui n'ont pas accès à l'opéra.
Alors, juste pour fixer l'esprit des auditeurs sur les grandes masses de votre cagnotte, Stéphane Lissner, le budget de l'Opéra de Paris, c'est un peu plus de 200 millions d'euros.
C'est 220 millions d'euros, oui.
Et sur ces 220 millions d'euros, alors le tiers à peu près provient de la billetterie. Oui. Il y a à peu près.
Ce qui est énorme, hein, vous rendez bien compte que.
C'est en accroissement.
En quelques années, on est passé de 35 à plus de 75 millions d'euros de billetterie. Hein,
L'argent public, c'est toujours à peu près la moitié de votre budget.
Non, l'argent public, ce n'est plus la moitié. L'argent public, aujourd'hui, encore il y a une quinzaine d'années, était autour de 60 à 65% de financement public pour en moyenne 35 à 40% de financement, d'autofinancement. Aujourd'hui, ça s'est inversé. C'est près bientôt de 60% de financement, d'autofinancement pour environ 40 45% de financement public. Donc, ça s'est inversé. Et nous sommes d'ailleurs aujourd'hui, en Europe, le seul théâtre de cette importance à avoir un autofinancement aussi important. Les financements, les subventions de l'État ont diminué et c'est normal que l'Opéra de Paris ait contribué à cet effort national compte tenu des différentes crises et chocs que nous avons eus à travers les résultats financiers de ces crises de ces dernières années. Mais toutefois, il faut rappeler que l'opéra, comme le théâtre, comme la littérature, comme la recherche, comme la santé, c'est un ciment social. Et au moment où vous parlez des gilets jaunes, il faut renforcer la culture. Il faut la renforcer, il faut la soutenir. C'est une fantastique réponse à la difficulté, à la crise, à ce monde et à ces gens qui ont le sentiment de perdre leur dignité, d'être malheureux. Et nous avons, nous, une chance fantastique. Nous pouvons tendre la main à ces gens parce que nous leur proposons une des choses les plus importantes et les plus belles, qui est l'art, la culture.
Vous avez perdu à peu près 10 millions de budget en 10 ans, 10 millions venus de l'État, donc vous les avez remplacés par d'autres ressources, des ressources propres. Je veux parler de la billetterie. Avez-vous peur qu'avec la crise des gilets jaunes et les financements supplémentaires qui sont requis aujourd'hui, il y ait une tentation de rogner sur le budget des institutions culturelles telles que l'opéra, Stéphane Lissner?
Non, je ne redoute pas cela. Je pense que ça serait une erreur. serait-ce une erreur de stratégie, car comme je viens de vous le dire, nous avons besoin de cette culture, comme au même titre que je viens de le dire, de la santé, de la recherche, etc. C'est fondamental dans l'équilibre de notre pays et dans notre société, au moment où le populisme, au moment où un certain nombre de sentiments, de violences s'installent. Je pense que c'est une réponse essentielle et j'espère que le gouvernement ne fera pas cette erreur.
Un an et demi après l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée, quel bilan d'étape tirez-vous de sa politique culturelle, vue de votre perron de l'Opéra de Paris?
Bah, vous savez, moi, c'est assez un peu difficile de répondre comme ça très nettement à ce genre de questions. D'ailleurs, je me rends compte que quand on voit les réseaux sociaux aujourd'hui autour de nous, etc., tout est très blanc ou noir, manichéen, c'est génial, c'est nul, c'est fantastique, tout est très violent. Non, il faut nuancer. Je pense que la politique, je pense que il y a eu un certain nombre de déclarations du président de la République sur sa volonté de faire de la culture un point important de sa politique. Peut-être avons-nous été un peu déçus, peut-être pendant ces 17 premiers mois, peut-être de certaines personnes qui ont porté cette culture et qui n'ont peut-être pas convaincu assez, ou qui n'ont peut-être pas su expliquer assez quelle était cette politique.
Expliquer cette politique, on voit en tout cas qu'il y a une volonté de se servir de la culture pour qu'il y ait un ciment social. Pourquoi, par exemple, ne pas multiplier les opérations de l'Opéra de Paris hors les murs? Pourquoi n'y a-t-il pas une volonté d'apporter l'opéra un peu partout en France? Est-ce si compliqué? Quels sont les problèmes que ça pose?
Alors, d'abord, il faut savoir que à travers le cinéma, plus de 450 salles dans le monde, à travers la télévision, à travers les opérations que nous faisons l'été, par exemple, en diffusion de films en plein air, c'est plus de 1 million de personnes qui assistent à des représentations de l'Opéra de Paris. Ensuite, le ballet a des tournées internationales, en France aussi bien sûr, mais à l'international. L'opéra, c'est plus compliqué parce que le cahier des charges nous impose de jouer avant tout à Paris et nous donnons plus de 450 représentations dans les deux théâtres. Hein, c'est-à-dire que très souvent, nous jouons dans les deux salles en même temps. Donc c'est ça aussi notre mission première. Mais je pense aujourd'hui que, encore une fois, à travers la télévision, à travers le cinéma, là encore, par rapport à ceux qui n'ont pas les moyens, d'un point de vue géographique ou d'un point de vue économique, nous pouvons porter quand même un certain nombre d'œuvres à la portée d'un plus grand nombre.
On écoute un extrait de Lady Macbeth, l'opéra de Chostakovitch. Lady Macbeth de Chostakovitch, présentez-nous cet opéra
Alors, c'est un opéra. Bon, d'abord, il faut avant toute chose dire que dans les années 90, c'est l'opéra Bastille, même s'il avait été joué une fois ou deux avant en province, c'est l'opéra Bastille, en présentant cet ouvrage, qui a fait découvrir aux Français, au plus grand nombre en tout cas, cette œuvre de Shostakovich. Shostakovich travaillait sur une trilogie, sur le destin des femmes russes. Et là, contrairement à la pièce de Shakespeare, la protagoniste tombe amoureuse en vérité de l'employé de son mari. Elle tombe amoureuse, elle sera acculée au suicide. Et au fond, elle n'est pas manipulée comme dans la pièce, mais elle est plutôt victime d'une certaine manière d'une société violente, patriarcale. C'est un opéra très violent, très fort, dont les personnages et dont les rapports violents, amoureux, sexuels même, j'ose dire, entre cette femme et cette attirance violente entre cette femme et l'employé de son mari, va donner lieu effectivement en même temps au regard que les gens du village vont porter sur cette femme et sur cette manière de juger cette femme avec beaucoup de violence et l'acculer, comme je le disais, au suicide. C'est une œuvre vraiment exceptionnelle. Pour moi, une des grandes œuvres du XXe siècle et c'est sûrement la plus grande pièce de Shostakovich.
Stéphane Lissner, vous qui dirigez l'Opéra National de Paris, justement, comment établit-on une programmation? Alors là, on a entendu quelques-unes des œuvres qui vont être présentées à l'opéra. On a entendu Les Troyens d'Hector Berlioz, on vient d'entendre Lady Macbeth de Shostakovich, on va entendre dans quelques instants Tristan et Isolde de Wagner. Comment fait-on un choix parmi tous ces chefs-d'œuvre?
Alors, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de paramètres, c'est pour ça que ça rend très difficile les choix, il y a beaucoup de paramètres. D'abord, il y a un paramètre d'équilibre, je dirais, entre les différents répertoires sur les quatre siècles de musique, bien évidemment. On va de Rameau jusqu'à une création mondiale. Ensuite, une création d'aujourd'hui, bien sûr. Ensuite, il y a évidemment le patrimoine et l'histoire de la musique française, de la musique allemande, de la musique italienne essentiellement, qu'on essaie de répartir. Ensuite, il y a des œuvres nouvelles, c'est-à-dire des œuvres qui ont déjà été jouées, mais qui ne sont pas très connues du grand public et qu'on essaie de faire redécouvrir. Par exemple, là, nous allons donner, avec cet artiste Romeo Castellucci, que je considère comme un des grands artistes de notre temps, nous allons donner une œuvre de Scarlatti, absolument inconnue, qui s'appelle Il Primo Omicidio, sur l'histoire de Abel et Caïn, qui sera dirigée par René Jacobs. Eh bien, c'est une œuvre que les Français vont découvrir, que personne ne connaît. J'ai entendu cette œuvre au disque qui avait été enregistrée par René Jacobs. C'est un sujet biblique, bien évidemment, qui, je crois, colle très bien à la vision et aux interrogations de Roméo. Et donc, c'est aussi présenter des œuvres inconnues, les faire découvrir, bien évidemment. C'est aussi réfléchir sur des œuvres dont les livrets permettent, comme je vous le disais, et j'y tiens beaucoup, de permettre à des metteurs en scène de réfléchir. Et vous avez des œuvres comme Lady Macbeth que vous venez de citer, ou Tristan Isolde, vous avez des œuvres qui permettent cette réflexion et souvent qui nous permettent de relier ces œuvres à notre monde, à notre actualité. Et puis vous avez des œuvres pour le plaisir, pour la jubilation vocale qui existent. Voilà, on peut écouter le bel canto et chercher, nous, les meilleurs interprètes aussi. Mais tout ça, c'est sur le papier, si je puis dire. Après, il faut trouver comment établir la programmation avec les artistes. Car les œuvres, c'est très important, mais plus important encore, ce sont les artistes qui vont porter ces œuvres. Et là, nous devons, nous, comme Opéra de Paris, à la plus grande exigence musicale et à la plus grande exigence théâtrale. Voilà.
Et pour ces 350 ans, Stéphane Lissner, la musique française est à l'honneur. Alors, oui. C'est rare, ou en tout cas, là, c'est véritablement un accent.
Non, j'y tiens beaucoup. Nous avons présenté Les Huguenots en ouverture de saison de Meyerbeer, qui n'avait pas été donné depuis 1936 à l'Opéra de Paris. On parle des Troyens, on parle bien évidemment de Berlioz, on a parlé bien évidemment des Indes Galantes, de Rameau. Mais j'ai fait tout un cycle Berlioz, par exemple, pendant 4 ans. Je crois que l'Opéra de Paris doit défendre aussi son répertoire, même si et je le dis un peu avec humour, ce n'est pas le répertoire préféré des Français.
Pourquoi ?
Eh bien, parce que je pense que, vous savez, quand Berlioz crée les Troyens, c'est un succès et c'est une revanche un peu par rapport à l'extraordinaire présence de Verdi déjà. Verdi occupe tout, toute la place. Et donc la musique italienne, celle du 19e siècle, à travers tous les grands compositeurs, de Rossini jusqu'à Verdi, etc., a tenu une place très importante en Europe et en France en particulier. Rappelez-vous, l'Opéra de Paris passe des commandes directement à Verdi, dont Carlos est créé à l'Opéra de Paris, les Vêpres siciliennes sont créées à l'Opéra de Paris. Verdi est un compositeur mondialement connu et écrase un peu évidemment voilà. Et ensuite Wagner arrive aussi, enfin est déjà là en même temps que Verdi, mais déjà Wagner aussi occupe une place importante. Donc la musique allemande à travers son histoire, la musique italienne effectivement ce sont voilà deux fortes présences, et je crois que la France bien évidemment grâce à des magnifiques compositeurs, on a bien sûr on pense au 19e siècle à Meyerbeer, à Gounod, à Massenet, etc. Nous devons bien évidemment de défendre aussi ce répertoire, mais pas seulement.
On écoute Tristan et Isolde. Petit compositeur qui débute, Wagner, Tristan et Isolde.
Alors j'ai voulu présenter cette œuvre pour plusieurs raisons. D'abord parce que je voulais rendre un hommage à Gérard Mortier. Je considère a été vraiment un grand directeur de cet opéra de Paris. Et c'est lui qui avait initié cette production. Et quand il a initié d'ailleurs cette production, il avait invité le vidéaste Bill Viola, vous vous en souvenez, qui avait fait un grand scandale. Eh bien, je raconte toujours cette histoire. Il y a quelques mois, nous avons redonné cette œuvre. Eh bien, on a encore sifflé Monsieur Peter Sellers. Et donc, à travers ça, bien sûr, Bill Viola et la proposition qui avait été faite, la proposition artistique de la mise en scène de Peter Sellers. Vous voyez donc, il y a encore beaucoup de chemin à faire. On a entendu sûrement...
Bah, tout change et rien ne change.
Non, rien ne change. Mais par moments, c'est un petit peu désolant de penser que 15 ans après ce spectacle magnifique et qui est pratiquement un classique maintenant, on ait encore besoin encore de réagir sur ce travail. En même temps, c'est ce qui fait la force du théâtre et du spectacle vivant, c'est le débat. Et je crois qu'il est fondamental, on doit apporter le débat aussi dans une entreprise comme celle-là.
Qu'est-ce que l'on a du mal aujourd'hui à monter, Stéphane Lissner? Quels sont les chefs-d'œuvre du passé, les pièces qui sont aujourd'hui un peu délaissées, peut-être injustement?
Je crois qu'on vient de le dire un peu déjà, c'est le répertoire français. C'est là où on a le plus de difficultés.
Bon, alors, ça, quand, pour le coup, vous l'avez remis à l'honneur.
Quand vous présentez les Huguenots, vous, qui n'a pas été donné depuis, encore une fois, depuis 1936, vous vous attendez quand même à une curiosité et à un élan fort du public. Ça a très bien marché, on n'a pas fait les 100% que nous faisons sur un opéra de Wagner ou sur un opéra de Verdi. Donc on voit bien encore que l'opéra français, c'est sûrement aujourd'hui, et c'est vrai pour Meyerbeer, c'est vrai pour Massenet, c'est vrai pour beaucoup de ses compositeurs, c'est plus difficile que certaines œuvres. Et puis ensuite, il y a évidemment les œuvres du XXe siècle qui là marquent alors souvent vraiment une grande différence avec Verdi, Bernstein, comme je voulais dire, ou avec Strauss. Là, on a encore beaucoup de chemin à faire. Et Wozzeck, grand classique du XXe siècle, sûrement un des opéras les plus importants de l'histoire, je pense, de l'opéra, ne remplit encore pas tout à fait les salles. Donc on voit bien, voilà. Mais nous sommes un service public, nous avons cette mission-là. Et nous devons défendre tout le répertoire et savoir que parfois, on ne sera pas complet, mais que ce n'est pas seulement les chiffres de la recette qui font une programmation.
Et alors, on a beaucoup parlé de pièces, mais il y a une question de génération aussi entre les interprètes. Et là, justement, parce qu'il faut en parler aussi pour l'opéra, est-ce qu'il y a en quelque sorte une crise de génération entre les interprètes confirmés, puis les nouveaux venus? Est-ce que on a du mal à renouveler les générations, Stéphane?
Alors, il y a deux choses. C'est très long, si je veux répondre rapidement, parce que sinon j'aurais beaucoup de choses à vous dire. Alors, il y a deux choses essentielles. Moi, quand j'ai dirigé le Théâtre du Châtelet ou le Festival d'Aix-en-Provence, on avait quelques difficultés avec la génération de chanteurs français. Aujourd'hui, on a une génération exceptionnelle. Exceptionnel. Je ne veux pas tous les citer. Vous prenez le programme de l'Opéra de Paris pour la saison 18-19 et vous verrez qu'à travers les Troyens, à travers les Huguenots, à travers les Indes Galantes, tous les grands chanteurs français sont là et c'est extraordinaire parce qu'on peut programmer énormément de chanteurs français. Ça, c'est la chose positive. La chose plus difficile, et que nous constatons tous, mais pas seulement à Paris, que nous constatons avec mes collègues, que ça soit à Munich, que ça soit à Londres, c'est malheureusement la difficulté aujourd'hui de convaincre les chanteurs de répéter aussi longtemps qu'ils le faisaient avant. Car pour chanter, il faut pouvoir incarner un personnage. Et pour pouvoir incarner un personnage, il faut du temps passé avec le metteur en scène, travailler avec le metteur en scène sur son personnage. L'opéra, c'est la réunion de la musique et du théâtre. Ce n'est pas seulement la musique. Et nous devons absolument lutter contre le fait qu'aujourd'hui, les chanteurs importants aujourd'hui répètent de moins en moins. Et je pense que l'opéra serait en grande difficulté s'il ne se réduisait, et s'il se réduit demain à uniquement une, comme je vous le disais tout à l'heure, une jubilation qui serait que vocale. Non, l'opéra est théâtre et musique.
Stéphane Nissner, directeur de l'Opéra de Paris, on écoute le Trouvert de Verdi, tandis que l'équipe du ballet final des matins se met en place. Le Trouvert de Verdi, il a été joué en juin dernier à l'Opéra Bastille